Audrey Mondy.
Bonjour. 4 personnes, dont 2 Neuchâtelois, sont morts samedi dans les Grisons des suites d'un crash d'avion qui avait décollé de Colombier. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Après le sport, la culture s'apprête à son tour à tester une grande manifestation. L'association Perspective Musique pourrait accueillir 600 personnes pour un récital demain à la salle de musique de la Chaux-de-Fonds. Changement de taille au sein du gouvernement israélien. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a été éjecté de son poste. Le Parlement a soutenu une nouvelle coalition. La journée est placée sous le signe du soleil et des températures estivales. Le mercure grimpera jusqu'à 27 degrés en plaine, 25 sur les hauteurs. Journée noire pour l'aviation. Un avion parti samedi matin de Colombier s'est écrasé dans l'après-midi dans le canton des Grisons. L'appareil a été repéré dans le cadre de recherches lancées pour retrouver un planeur et son pilote dans la zone, précisent ce matin les polices neuchâteloises et grisonnes. 5 personnes, dont 2 neuchâtelois, ont trouvé la mort dans les 2 accidents. Vos précisions, Léonard Reichen.
Oui, l'avion de tourisme à hélice, parti du canton de Neuchâtel, était de type Robin DR-400. Il effectuait un vol avec 4 personnes à son bord au-dessus du canton des Grisons. La police grisonne précise qu'il avait fait escale à Samedan et se dirigeait vers Locarno, au Tessin. Pour une raison que l'enquête devra déterminer, il s'est écrasé dans la montagne au-dessus de Bivio, à une altitude de 2700 mètres, non loin de la zone où un planeur turgovien a lui aussi perdu le contrôle. Malgré les efforts des secours, les 5 occupants des appareils n'ont pas survécu. Un soutien pour les familles a été mis en place et les investigations afin d'identifier les victimes sont en cours. Le ministère public du canton des Grisons a ouvert une enquête pour déterminer les causes et les circonstances de ces accidents. Le service suisse d'enquête de sécurité a également été sollicité pour la partie technique de l'investigation.
Merci Léonard pour ces précisions. Ce sera la plus grande jauge que la culture neuchâteloise ait connue depuis mars 2020. Le récital de la jeune pianiste Alexandra Dvogan a été choisi comme manifestation test par le canton de Neuchâtel. 600 billets sont mis en vente pour le concert qui se tiendra demain soir à la salle de musique de la Chaux-de-Fonds. Certificat de vaccination avec 2 doses remontant à plus de 14 jours. Test PCR ou antigénique négatif ou autotest effectués sur place seront nécessaires pour accéder au concert, tout comme la présentation d'une carte d'identité. Si d'autres manifestations test étaient à l'extérieur, celle-ci a la particularité d'être à l'intérieur. La disposition des spectateurs sera faite selon des règles bien précises. Frédéric Eguiman, le président de Perspective Musique, l'association organisatrice.
Chaque personne ou groupe de personnes qui peuvent être ensemble dans la mesure où elles attestent ou enfin elles déclarent au moment de l'achat du billet faire ménage commun, ces personnes ou groupes de personnes doivent être séparés d'une place vide à gauche et à droite. Par bonheur, le système de vente en ligne a réussi à intégrer cette donnée-là. Donc maintenant, quelqu'un qui achète une place isolée, ben automatiquement, s'il est seul à sa droite et à sa gauche, les places sont bloquées. Et pour l'organisateur, donc, qui est dû replacer en collaboration avec la billetterie de la ville. Donc, je souligne ici la disponibilité, la gentillesse, la compétence. On a replacé certains abonnés, forcément, pour assurer cette distanciation, ainsi que les personnes qui avaient acheté déjà des billets. Toutes ces choses-là, oui, c'est un concert qui n'est pas comme d'habitude, c'est clair. Mais il restera la musique.
Le plan de protection détaillé pour ce concert est à retrouver sur le site de l'organisateur en lien sur rtn.ch. L'autoroute A5 entre Grandson et Vaumarcu en direction de Lausanne sera fermée au cours des 2 prochaines nuits. La circulation sera déviée entre 22h et 5h du matin. Puis le même tronçon sera fermé en direction de Bienne du 16 au 18 juin. Ces fermetures sont liées à des travaux d'inspection. Les Suisses se mobilisent une nouvelle fois aujourd'hui 14 juin. Au cœur des revendications, la bataille contre le relèvement de l'âge de la retraite, des hausses de salaire et une protection contre les violences sexistes et sexuelles. Les collectifs de la grève féministe se mobiliseront au niveau national à 3 occasions. Des pique-niques et des stands sont organisés dès midi. Le deuxième point fort se situe à 15h19 précise, au moment de la journée où les femmes commencent à travailler gratuitement du fait des inégalités salariales. Une action nationale suivie des cortèges et manifestations sera enfin lancée dès 18h. Des événements se tiennent notamment à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds. À Berne, le Conseil national se penche cet après-midi sur un sujet avec un air de déjà-vu, les déductions fiscales pour les parents qui font garder leur enfant à la crèche. En septembre 2020, un premier projet avait été refusé dans les urnes. Une initiative parlementaire issue des rangs du PLR a été déposée pour redonner une chance au concept. Le Centre et l'UDC n'abandonnent quant à eux pas l'idée d'augmenter les déductions générales pour tous les parents. Et puis on vient de l'apprendre, la PLR Petrague 6 se retire à la fin de l'année. La conseillère nationale suissoise a fait cette annonce aujourd'hui sur Twitter. Elle souhaite se concentrer davantage sur sa carrière professionnelle et elle continuera toutefois à être active comme conseillère nationale. C'était la surprise de la journée de votation fédérale hier. 51,6% des Suisses ont rejeté la loi sur le CO2. Pourtant, les accords de Paris que la Suisse a ratifiés exigent une division par deux des émissions de CO2 d'ici à 2030 et la neutralité carbone en 2050. La loi sur le CO2 et ses taxes incitatives étant enterrées, que faire? Peut-on s'en remettre à la responsabilité et au bon sens individuel? Écoutez l'avis de la climatologue du GIEC et de l'EPFZ, Sonia Seneviratne.
La Suisse ne fait pas la contribution qu'on pourrait attendre d'elle en tant que pays développé, en tant que pays riche. Je pense que c'est surtout décevant pour la Suisse. Ce sera peut-être plutôt une catastrophe pour la Suisse dans le sens où ce sera très mauvais pour sa réputation. Il est absolument essentiel d'agir immédiatement. Je veux dire, nous sommes dans une crise climatique et, disons, le vote n'y change rien. Et la Suisse a des responsabilités, comme tous les autres pays, de diminuer ses émissions de CO2. La plupart des pays qui nous environnent ont une législation maintenant en place qui ressemble beaucoup plus ambitieuse que ce que nous avons en ce moment en Suisse. Si on compte sur les autres pour faire les efforts qu'on n'est pas d'accord de faire nous-mêmes, ça semble une politique très égoïste. Je ne pense pas que ça profitera à l'image de la Suisse et c'est dommage.
Au Parlement fédéral, nombreux sont ceux qui ne veulent pas baisser les bras et chercher une voie sans taxes incitatives. Le socialiste vaudois Roger Nordmann, qui avait beaucoup travaillé au compromis de la loi sur le CO2, prône désormais une stratégie secteur par secteur.
Pour la suite, il faudra plutôt fonctionner avec, d'une part, des programmes publics d'incitation qui proposent aux acteurs économiques des soutiens. Et le deuxième aspect, c'est évidemment les normes techniques. Par exemple, pour les normes de pollution des voitures, ça c'était peu contesté dans la loi. Ça c'est quelque chose qu'on peut reprendre. Et puis l'autre chose, on avait essayé de faire un projet cohérent global, mais je crois que maintenant il va falloir y aller par tranche pour que les gens puissent dire précisément « oui, je suis d'accord avec cet aspect, non, je ne suis pas d'accord avec cet aspect ». Genre une tranche bâtiment, une tranche mobilité routière, une tranche aviation par exemple. C'est difficile à dire quelle part des gens qui ont voté non veulent quand même agir pour le climat. Il y en a sûrement. Est-ce que c'est 3%, 10% ou est-ce que c'est 50% de ceux qui ont voté non? Tendanciellement, ça montre aussi qu'il faut plutôt aller avec des aides à l'investissement plutôt qu'aller avec des taxes d'incitation qui sont mal comprises.
C'est une nouvelle page de l'histoire d'Israël qui s'est tournée hier. Benjamin Netanyahou a été éjecté de son poste de Premier ministre après un règne ininterrompu de 12 ans. Le Parlement a soutenu une nouvelle coalition menée par l'ancien allié du désormais ex-Premier ministre, Naftali Bennett. Et cela s'est joué à un souffle, Olivier Zano.
Sur les 119 membres que compte le Parlement, 60 ont voté pour la nouvelle coalition, 59 ont soutenu Benjamin Netanyahou. Une voix, un détail qui change tout, car c'est bien Naftali Bennett, chef de la droite radicale, qui est le nouveau Premier ministre israélien. L'homme a bénéficié de cette large entente qui va de la droite à la gauche, avec en prime, et c'est historique, l'appui d'un parti arabe. Benjamin Netanyahou était pourtant soutenu par son parti, le Likoud, aussi par l'extrême droite et les partis ultra-orthodoxes. Cela n'aura pas suffi. Visage fermé, l'ex-premier ministre a serré la main de son successeur avant de quitter le Parlement. Naftali Bennett a lui tenu un premier discours difficile devant la Knesset, hué par l'opposition. Ce n'est pas un jour de deuil, c'est un jour de changement de régime dans une démocratie, a-t-il déclaré. La tâche s'annonce toutefois compliquée, le pays est divisé. Naftali Bennett sera d'ailleurs confronté à des défis importants, demain déjà, avec la marche prévue par l'extrême droite à Jérusalem-Est, dans le secteur palestinien occupé par Israël. Les islamistes du Hamas ont déjà promis des représailles si cette marche contestée devait être maintenue.
Battu mais pas abattu, Benjamin Netanyahou a lui averti qu'il taclerait le nouveau gouvernement dans l'espoir de revenir au pouvoir. Ceci malgré ses 71 ans et son procès pour corruption, malversation et abus de pouvoir dans une série d'affaires. Et côté sport, avant de parler de l'Euro, Liana Aliou, jeune libérée de 19 ans formée au VBC Val de Travers, évoluera en Liga de volleyball la saison prochaine. Son club formateur lui a proposé un contrat professionnel. Avec elle, l'effectif pour la saison prochaine de Valtra compte désormais 4 volleyeuses issues du club. Stefan Küng ne défendra pas son titre national de course en ligne. Le cycliste turgovien annonce aujourd'hui renoncer à participer au championnat de Suisse dimanche prochain à Knoutville, dans le canton de Lucerne. Le programme entre la fin du Tour de Suisse qui s'est terminé hier et le départ du Tour de France le 26 juin ne laisse aucune marge à Stefan Küng. Il sera toutefois présent mercredi au chalet d'Agobet pour le championnat de Suisse du contre-la-montre.
RTN 12h26.
Avec le Lobby Bar à Neuchâtel. Pour vivre intensément les meilleurs moments foot. Restauration sur réservation sur lobbybar.ch.
Et la nouvelle VVI D4 à découvrir chez Automobile Seine à Neuchâtel, Yverdon et La Chaux-de-Fonds. Automobile Seine, bien plus qu'un garage.
Un grand d'Europe fait son entrée en lice ce soir à l'Euro de football. L'Espagne, qui est la seule nation avec l'Allemagne à avoir remporté 3 fois le trophée, affronte la Suède. Coup d'envoi à 21h à Séville. Les deux sélections ont vu leur préparation perturbée par des cas de Covid au sein de leur effectif. Elles n'entament donc pas leur tournoi dans des conditions idéales. Vos explications, Jean-Paul Pichy.
Le Covid comme point commun de ce duel. L'Espagne commence cet Euro en manque de repères. Son capitaine, Sergio Busquets, a été testé positif au coronavirus dès le début de la préparation. Il est en isolement. Sa participation à la suite du tournoi est incertaine. Pour éviter la multiplication de cas, la sélection ibérique a pris des mesures drastiques en obligeant ses joueurs à s'entraîner en solitaire jusqu'à vendredi dernier. Elle n'a d'ailleurs pas pu jouer son dernier match amical contre la Lituanie la semaine passée. La Suède n'est pas mieux lotie. La sélection scandinave a perdu 2 joueurs en cours de route, frappés par le virus. Le talentueux attaquant de la Juventus, Dejan Kulusevski, et le milieu de Bologne, Mathias Svanberg. Reste que les entraîneurs des deux formations se sont voulus rassurants et optimistes. L'Espagne et la Suède sont prêtes à en découdre.